Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations, mesdames et messieurs, où que vous soyez. Vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Que le nom du Très-Haut soit béni pour cette grâce infinie qui nous accorde encore d'honorer ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Oui, nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous accorde encore cette grâce. Et quand je dis nous particulièrement ici, juste à mes côtés, notre bien-aimé dans le Seigneur Yannick, et quant à moi, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Très chers auditeurs, très chères auditrices, comment allez-vous? Je crois que par la grâce de Dieu, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, puisque vous écoutez l'heure de la vérité, d'ici là, tout ira certainement mieux pour vous. Yannick, comment tu vas?
Je vais très bien, bien-aimé.
Sois la bienvenue et sois béni dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus.
Amen. Oui, je vais profiter aussi pour saluer tous ceux qui nous écoutent, sans oublier ma famille qui sont connectés et toute la population du centre qui soit connectée à l'heure de la vérité et que le Seigneur vraiment les bénit. Amen.
Amen. Où que vous soyez, parce que je sais que vous êtes très, très nombreux à l'écoute, recevez tous une fois de plus nos sincères et chaleureuses salutations. Dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus, et que la bonne main du Seigneur soit sur vous. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'avoir un stylo et sur quoi noter. Parce que notre souci, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur les Saintes Écritures. Étant donné que nous sommes là pour prêcher la parole du Dieu vivant, nous ne sommes pas là au nom d'une religion, nous ne sommes pas là pour parler d'une religion, nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une religion. Nous ne sommes pas là pour représenter une religion, mais nous sommes là uniquement au nom du Seigneur et pour prêcher uniquement sa parole et surtout sa vérité qui a franchi. Car le Christ lui-même a dit, vous le savez déjà, pour ceux qui sont fidèles auditeurs et auditrices, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je tiens comme cela avant de continuer à dire que nous avons lui a consacré une série d'émissions à l'avenir de demain, le fer de lance de la nation, les futurs leaders de demain, les jeunes gens. Oui, une série d'émissions avait été consacrée à la jeunesse, aux jeunes gens. Et beaucoup de choses ont été dites. Et je tiens à dire que si beaucoup ont raté certaines de ces émissions, vous pouvez toujours entrer en contact avec nous pour avoir ce message qui sont vraiment intéressants. Oui, sentez-vous libre. Que ce soit en passant ici à la maison de la radio pour entrer en contact avec ces émissions, que ce soit en m'appelant, tout cela vous sera offert gracieusement. Parce que si le Seigneur a permis que vous puissiez écouter ces choses, c'est parce que c'est vraiment important. Ça vous permet d'avoir des fondements solides pour pouvoir affronter l'avenir avec sérénité. Étant donné que qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous serez le futur leader de demain. Le futur président, ministre, gouverneur, préfet, que sais-je encore, tout ce que vous pouvez imaginer. De toutes les façons, vous êtes condamné à être les futurs leaders, dirigeants et même les futurs chefs de famille de demain. Et la parole de Dieu est bien placée pour vous donner d'avoir un fondement solide afin que le moment venu, vous puissiez être à la hauteur de tous les défis qui vous seront présentés et que vous aurez à relever. Oui, que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment, très jeunes gens. Parce que mon désir, c'est que si nous avons eu une génération qui a été corrompue, le vœu de mon cœur, c'est que le Seigneur suscite autour de nous, dans cette nation, une nouvelle génération de jeunes gens qui vont vraiment faire la différence, qui vont vraiment diriger dans l'intégrité, la droiture, qui vont vraiment impacter positivement notre environnement, notre génération et même l'humanité tout entière. Le désir de mon cœur, c'est que vous puissiez être ceux-là qui vont même sortir les familles de leur misère, de leur pauvreté. Parce que, croyez-moi, votre avenir ne dépend pas de votre famille ou bien de la famille dans laquelle vous êtes né. Même si vous êtes né pauvre, même si vous êtes né dans une famille pauvre, si vous mourrez pauvre, c'est vous qui voulez. Parce qu'il suffit tout simplement d'être conscient de beaucoup de choses et aussi de se tourner vers le Seigneur et vers sa parole. Et vous verrez que le fait que vous soyez même né dans une famille pauvre ne veut rien dire. Vous pouvez être très riche, même si vous êtes né dans une famille pauvre, même si vous êtes né dans une famille où il n'y a que des médiocres, où il n'y a que des personnes qui ne servent à rien, vous pouvez faire la différence. Si et seulement si, vous pouvez être conscient que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour vous, un avenir plein d'espérance, en lui faisant confiance et en ayant les regards fixés sur lui et en se tournant vers sa parole et en écoutant attentivement ses conseils, vous allez réussir, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce qu'avec le Seigneur, on n'échoue jamais. Et la dernière fois, il était question de nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus. Et avant de continuer, je tiens aussi à dire une fois de plus à tous ces jeunes gens qui sont à l'écoute. Si vous avez des préoccupations de quelque nature que ce soit, sentez-vous libre. Parce que je sens vraiment un appel spécial sur ma vie concernant les jeunes gens. Si vous avez n'importe quel genre de préoccupations, sentez-vous libre. Que ce soit pour besoin de conseils, d'orientation, de prière, sentez-vous libre d'entrer en contact avec nous. Parce que je sais qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Oui, tout est possible avec le Seigneur. Et si vous vous tournez vraiment vers le Seigneur, si vous faites confiance à ce qu'il dit, à sa parole, vraiment, vous avez des bonnes bases pour réussir dans la vie. Donc, jeunes gens qui êtes à l'écoute, sentez-vous libre. Nous recevons sans protocole. Si vous avez besoin de prières, même si vous sentez que votre vie, quelque part, est influencée par les puissances des ténèbres, avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a la délivrance et il y a la solution.
Amen.
Donc, sentez-vous libre vraiment de nous rencontrer. Oui, sentez-vous libre. Nous recevons sans protocole. Et aussi, et avant de continuer à nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus, il y a cet auditeur, oui, c'est un fidèle auditeur qui a envoyé ce message. C'est Gaston Maman qui pose beaucoup de questions qui tournent tout autour de Noël, de la Sainte Cène et de la Pâque. C'est vrai, concernant particulièrement Noël, j'ai déjà tellement prêché sur ce sujet, sur des différentes antennes. Et je répète ce qui a été déjà dit à plusieurs reprises. La Bible ne donne pas de date précise en ce qui concerne la naissance du Seigneur Jésus. Donc la date du 25 décembre ne saurait être justifiée bibliquement, parce que la Bible n'a pas donné une date précise concernant la naissance du Seigneur Jésus. Et la Bible n'a pas non plus demandé que l'on célèbre cette fête concernant la naissance du Seigneur Jésus. C'est ce que je peux dire brièvement. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit la dernière fois sur cette antenne ou sur d'autres antennes, la période où Jésus est né, il y avait les bergers dehors. Ça sous-entend que c'était une période propice pour pouvoir passer des nuits dehors. Alors qu'en décembre, ce n'est pas du tout possible, parce qu'en Israël, en décembre, c'est l'hiver, où il y a de la neige, où il fait très froid. Ce n'est pas possible d'être dehors avec ces brebis, ces bêtes en cette période. Donc 27 décembre ne saurait être la date de la naissance du Seigneur Jésus. Et le Seigneur n'a pas non plus demandé aux hommes de célébrer cela. Et concernant la Pâque, la Bible nous dit dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Maintenant, si on lit à partir du verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux des Égyptiens. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 12. Cette fois-ci, à partir du verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible nous parle de l'institution de la Pâque. Je tiens à signaler que la Pâque, oui, je signale que la Pâque, ça veut dire tout simplement l'action des passés. Donc, Dieu avait demandé à Israël de célébrer chaque fois cette fête pour commémorer les délivrances, oui, de l'esclavage. Lorsqu'ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, qu'ils sont sortis, et que cette même nuit, Dieu a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, en commençant des animaux jusqu'aux hommes, et aussi, Dieu avait recommandé que le sang soit mis sur les linteaux, et lorsque Dieu devait passer pour frapper, en voyant le sang, il devait traverser ses maisons. Et c'était une loi concernant la nation Israël qui était esclave en Égypte pendant plus de 430 ans. Alors, sous cet angle-là, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prendre cela pour notre propre compte, parce que cette Pâque avait été instituée en Israël pour pouvoir se rappeler que le Seigneur a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et je disais tantôt que sous cet angle-là, aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas s'approprier cette fête-là bêtement. Oui. Et je tiens à signaler que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque, ce qui est tout à fait normal parce qu'il est juif et il était concerné par cette alliance. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses concernant la loi. Il a pratiqué parce qu'il était juif. Et tant qu'il était sur cette terre, il était soumis à cette loi, à cette alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Je tiens à signaler que lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, la traduction normale et la plus juste, c'est l'Ancienne Alliance, parce que Dieu a fait les alliances avec les hommes sur la terre. Et Dieu a fait une alliance avec le peuple juif. Et Dieu a aussi fait une alliance avec l'humanité tout entière. Et le Nouveau Testament veut dire « Nouvelle Alliance ». Donc, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller copier bêtement dans l'Ancien Testament pour pratiquer, parce que c'était des choses qui concernaient l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple juif. Et je disais tantôt que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant sous la loi, a pratiqué la loi, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 19, il est écrit, dans Luc 22, parlant de Jésus, « Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « C'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. » Amen. Nous voyons ici la dernière Pâque que le Seigneur Jésus-Christ a partagée avec ses disciples. Il va plutôt instituer ce que nous appelons vulgairement la Sainte Cène. Et c'est cette Sainte Cène qui va dire que désormais ses disciples vont faire cela en mémoire de lui. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que ses disciples célèbrent la Pâque en mémoire de lui. Par contre, Jésus lui-même a célébré la Pâque parce qu'il était sous la loi et il était obligé de pratiquer cela en tant que juif. Mais il a profité de la dernière Pâque pour instituer plutôt la Sainte Cène. Oui. Et c'est cette Sainte Cène qu'il a demandé que l'on fasse cela chaque fois en mémoire de lui. Donc voilà ce que le Seigneur a recommandé et qui doit être pratiqué et fait. Prendre la Sainte Cène. Voilà. Par contre, on ne voit nulle part le Seigneur Jésus recommander à ses disciples de célébrer la Pâque. Encore moins, les premiers chrétiens, on ne voit nulle part où ils sont en train de célébrer cela. Et par rapport à la Pâque, avant d'y revenir un tout petit peu, je vais dire un mot concernant la Sainte Cène. L'apôtre Paul, qui a reçu les révélations concernant la Sainte Cène, va dire dans 1 Corinthiens chapitre 11 que toutes les fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, ou bien jusqu'à ce qu'il revienne. Toutes les fois. La Bible dit toutes les fois. Donc en ce qui concerne la périodicité de la prise de la Sainte Cène, il n'y a pas de loi là-dessus. Donc, chaque assemblée est libre, oui, de prendre la Sainte Cène comme elle veut. Mais le plus régulièrement possible sera la bienvenue. Mais il n'y a pas une loi qui dit qu'on doit prendre la Sainte Cène que tous les mois ou une fois par an, non. Ou même toutes les semaines, pas du tout. Mais une assemblée peut décider de prendre la Sainte Cène toutes les semaines. Ce n'est pas un problème, mais on ne peut pas faire de cela une doctrine. Mais il est quand même vivement conseillé de prendre la Sainte Cène le plus régulièrement possible. Le plus régulièrement possible. Voilà ce que nous pouvons dire en bref. Si je reviens maintenant sur la Pâque, dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible va dire quelque chose concernant la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible va nous dire « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, c'est désormais Christ qui est la Pâque des chrétiens et il a été immolé. Et c'est Christ qui est la Pâque des chrétiens qui a été immolé, vit dans le cœur du chrétien. Sous cet angle-là, le chrétien célèbre la Pâque tous les jours avec le Christ qui est en lui. Donc le chrétien n'a pas besoin d'attendre un jour spécial, une fois par an, pour pouvoir se rappeler de la Pâque. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, la Pâque, selon les Saintes Écritures, c'était une loi juive, c'était une fête juive. Le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples l'ont célébré lorsqu'ils étaient encore sous la loi. Mais dès que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, dans Jean chapitre 19, le verset 30, il va dire « Tout est accompli ». Donc il a accompli toutes les lois cérémonielles et il a introduit les chrétiens sous une nouvelle alliance. Et la Bible va nous dire que si Christ est notre Pâque, désormais nous devons célébrer cette Pâque avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, quelqu'un qui veut honorer Christ qui est sa Pâque doit vivre désormais dans la pureté et dans la vérité. Voilà ce que la Bible enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Donc, si les gens célèbrent même cette fête sans vivre dans la pureté et dans la vérité, c'est qu'ils se trompent eux-mêmes. C'est tout simplement une pure comédie qui ne peut pas vraiment rapprocher les gens de Dieu. Et je vais profiter aussi pour dire quelque chose, pour essayer d'élargir la compréhension de nos auditeurs et auditrices, puisque nous sommes là pour éclairer les uns et les autres. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 18 et 19 que je vais lire rapidement pour nous. « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Verset 19 « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Dans cette portion de Sainte Écriture de Hébreux 7, versets 18 et 19, la Bible nous dit que la loi en réalité n'a rien amené à la perfection. C'est pour cette raison que Dieu a décidé d'inaugurer une nouvelle alliance qui ne sera plus régie par la loi qu'il avait donnée à Israël. La première alliance que Dieu avait faite avec Israël, la Bible nous dit qu'il y avait même beaucoup de choses qui étaient tout simplement l'ombre des choses à venir. Et que c'était même pour nous préparer à recevoir Christ, être sauvés par la foi et vivre désormais par la foi. Et non plus sur un principe des rites et des cérémonies religieuses et autres. Galates chapitre 3, à partir du verset 23 à 25, va nous dire ceci. Écoutez très bien, Galates chapitre 3, à partir du verset 23 au verset 25. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepte pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses préceptes. Amen. Alors, la Bible nous dit clairement que désormais, Christ est venu avec la grâce et par la foi, nous sommes sauvés. Donc, nous ne sommes plus ceux-là qui vont être justifiés aux yeux de Dieu en pratiquant certains rites ou certaines cérémonies religieuses. Donc c'est très très important. Jésus-Christ est venu, il a inauguré une nouvelle alliance par son sang et c'est par la foi que nous nous rapprochons de Dieu et que nous sommes agréables à Dieu. Ce n'est pas par les rites religieux et par les cérémonies comme le peuple d'Israël avait coutume de le faire dans l'ancienne alliance. Et si nous revenons dans Hébreux, cette fois-ci chapitre 8, la Bible va nous dire ceci à partir du verset 8, il est écrit. Ou bien même à partir du verset 7 de Hébreux chapitre 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. » Verset 9, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, maintenant verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur est en train de dire qu'il va inaugurer, il va sceller une nouvelle alliance avec son peuple. Cette nouvelle alliance sera différente de l'ancienne alliance. La particularité de cette alliance, c'est que Dieu lui-même va imprimer sa loi dans nos cœurs, dans notre esprit. Donc nous n'allons plus essayer de nous rapprocher de Dieu en pratiquant des rites et des cérémonies religieuses, de quelque manière que ce soit. C'est par la foi et avec l'Esprit de Dieu et sa loi qui est imprimée dans nos cœurs par son Esprit que nous allons servir Dieu et lui être agréable. Et au chapitre 9 de Hébreux, le verset 9 et 10, la Bible va nous dire, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Verset 10, il était avec des aliments, des boissons et les diverses ablutions. Ces ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de la réformation. Alléluia. Donc la Bible nous parle qu'il y a des choses que Dieu avait ordonnées à Israël, mais c'était jusqu'à ce qu'il y ait une époque de la réformation. Donc nous sommes maintenant sur une période de la réformation. Dieu a réformé beaucoup de choses. C'est pour cette raison que je tiens à dire que chrétiens, il ne faut plus que vous alliez dans l'Ancien Testament ramasser beaucoup de choses, les fêtes, particulièrement les fêtes des récoltes, les fêtes de ceci, les fêtes de cela. Non, c'était une loi que Dieu avait donnée à Israël. C'était une alliance que Dieu avait faite avec Israël en tant que peuple, en tant que nation. Et Dieu a fait une nouvelle alliance avec les chrétiens. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu ne recommande plus ces choses-là. Donc, qu'on ne vous abuse plus, qu'on ne vous arnaque plus, qu'on ne vous escroque plus. Toutes les doctrines qu'on doit pratiquer doivent être validées désormais par le Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas parler de nouvelle alliance et ne pas sortir un enseignement pur et indiscutable dans le Nouveau Testament. Tout doit être suffisamment éclairé par le Nouveau Testament parce que c'est le Nouveau Testament qui est la nouvelle alliance. Donc si on pratique quelque chose que le Nouveau Testament n'a pas recommandé, c'est une fausse doctrine. Parce que la Bible nous dit que beaucoup de choses, même dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc Jésus est venu avec la réalité. Donc on ne vous maintient pas dans l'ombre. La Bible va jusqu'à dire que c'était quelque chose qui était imparfait. Donc la perfection est venue avec le Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Donc les enseignements du Seigneur Jésus et particulièrement les épîtres sont là pour nous aider à mener notre vie chrétienne. Et la Bible nous dit que nous ne devons plus nous mettre sous des jougs. Donc on ne vous ramène plus dans l'ancienne alliance en vous mettant sous certains jougs. Oui. Je sais de quoi je parle. Parce que toutes les fausses doctrines tirent beaucoup plus leur origine que dans l'Ancien Testament. Parce que parfois on tire certains versets, certaines portions de Saintes Écritures, de leur contexte. Et on vient, on met cela sous la tête des chrétiens. Et au travers de cela, on les abuse parfois même, on les escroque même à la limite. Et on les soumet encore même à certains rites, à certaines lois qui en réalité n'ont plus leur place dans la nouvelle alliance. Lorsque j'ai parlé des fausses doctrines, je m'étais longuement étalé sur ces choses. J'avais par exemple touché le fait qu'on consacre aujourd'hui avec de l'huile alors que le Saint-Esprit a remplacé l'huile dans le Nouveau Testament. Il y a encore des habits spéciaux que les gens mettent pour se distinguer des autres alors que le Nouveau Testament nous dit clairement que ce sont les œuvres des serviteurs de Dieu désormais. Oui, qui sont les vêtements qui montrent, et c'est surtout les fruits, les œuvres qui montrent qu'ils ont été oints par Dieu pour faire telle chose. C'est autant de choses. Donc je ne dois plus revenir en détail sur ces choses, mesdames et messieurs. Sachez que vous êtes à l'écoute de l'aide de la vérité. Et vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre.
Amen.
Oui, nous sommes là pour éclairer les gens. Quitte à ce que beaucoup de gens soient fâchés, que beaucoup de gens ne soient pas contents de ce qui est dit, n'empêche, il n'y a que la vérité qui puisse vraiment affranchir les hommes.
Amen.
Si vous venez de vous connecter, vous êtes à l'écoute de l'air de la vérité, gardez tout simplement l'écoute. Oui, je disais tantôt que si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes à l'écoute de la vérité. Comme promis, nous allons encore nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons lu beaucoup de choses. Nous avons par exemple lu que dans l'évangile de Jean chapitre 7 à partir du verset 31 au verset 32, à un moment donné, les pharisiens ont envoyé avec les sacrificateurs, envoyé arrêter Jésus, les huissiers. Et lorsque les huissiers sont arrivés, à partir du verset 45 au verset 46, ils sont revenus sans Jésus. Et lorsque la question leur a été posée, pourquoi êtes-vous revenus sans Jésus? Les huissiers ont dit, personne n'a jamais parlé comme cet homme.
Amen.
Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette personne qui a parlé comme personne n'a jamais parlé sur cette terre. Amen. Et personne ne parlera jamais comme lui.
Amen.
Et le Seigneur Jésus-Christ a toujours assumé tout ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a jamais dit quelque chose et plus tard est revenu rectifier. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité et tout ce qu'il dit est la vérité.
Amen.
Nous avons vu par exemple dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 17 au verset 19 qu'avant même qu'il ne soit arrêté, mis à mort, il avait dit cela à ses disciples longtemps d'avance, qu'il devait vraiment être arrêté, méprisé, fouetté, et qu'on devait le crucifier, mais que 3 jours, il devait ressusciter. Donc, le fait que le Christ aille à la croix n'était même pas un accident. Il le savait. Et il a fait cela. Il a accepté volontairement d'aller à la croix, parce qu'il savait que notre salut passait par là. C'était pour mourir pour tes péchés, afin que tu sois désormais sauvé gratuitement à cause de son sacrifice, à cause de son sang précieux qui efface tous tes péchés si tu peux te repentir et l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur.
Amen.
Nous avons vu aussi que dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 au verset 20, il a dit qu'il est celui-là qui a le plein pouvoir dans les cieux et même sur la terre. Il est le maître de l'univers et il est digne de confiance. Si vous avez quelqu'un qui contrôle tout l'univers, cette personne est vraiment digne de confiance. Mettez votre foi en lui, ne doutez pas, ne doutez point, et vous verrez que vous n'allez jamais être déçu par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez vraiment cette foi véritable en lui. Et dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, il a aussi dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, le Christ est en train d'affirmer qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que pour être partout, au même moment, il n'y a que Dieu pour faire cela et pour être omniprésent sur la terre. Et Christ a dit qu'il est le Messie. C'est-à-dire ce sauveur mis à part pour sauver l'humanité. Si vous cherchez le salut en dehors de Christ, sachez tout simplement que vous êtes perdus, mesdames et messieurs. Il est le Messie, le Sauveur, celui qui délivre, celui qui est oint, celui qui a été mis à part pour délivrer les hommes, pour les sauver et pour les conduire au paradis. Et dans Jean chapitre 6, à partir du verset 35, le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au verset 48 a confirmé à plusieurs reprises qu'il est le pain de vie. Si vous mangez de ce pain, vous aurez la vie éternelle. Vous n'aurez même plus soif. Donc le Seigneur Jésus-Christ est la seule personne capable de rassasier votre âme qui a faim et qui a soif. Oui, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut vraiment combler et satisfaire. Tant que vous n'avez pas le Christ, vous ne serez jamais satisfait. Vous n'aurez même pas la vie éternelle. Oui, quoi que vous fassiez. Bien entendu que nous aurons tous une certaine vie éternelle, soit auprès de Dieu, soit dans un lac de feu. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ parle de la vie éternelle, c'est bien entendu la vie éternelle auprès de lui et non dans un lac de feu. Et dans Jean chapitre 8, le verset 12, le Christ a également dit, « Je suis la lumière du monde. »
Amen.
« Celui qui croit en moi aura la lumière de la vie. » Donc si vous voulez avoir la lumière de la vie, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Le Christ est la lumière. Suivez-le. Il éclairera les ténèbres de vos vies. Il éclairera votre chemin jour après jour. Nous avons aussi vu dans l'évangile de Jean chapitre 8, à partir du verset 23 au verset 24, que le Christ déclarait, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il faut croire à ce que Christ est pour pouvoir vraiment être sauvé, pour avoir cette grâce de voir vos péchés effacés et entrer dans le royaume de Dieu un jour. C'était un petit résumé comme cela pour mettre ceux-là qui n'étaient pas à l'écoute dans le bain ou bien ceux qui n'avaient pas suffisamment écouté certaines choses. Nous allons tout simplement continuer. Nous allons rester dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Cette fois-ci, à partir du verset 51 au verset 58. Écoutez attentivement cette portion de Sainte Écriture. Yannick, si tu trouves, tu peux la lire pour nous tous. L'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 51 au verset 58.
Il est écrit, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dit les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. » Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même,
Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. »
Amen.
Amen.
Voilà une portion de Sainte Écriture où le Seigneur Jésus-Christ affirme encore beaucoup de choses. Il commence en disant, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En fait, c'est tout simplement parce que les chrétiens authentiques ayant l'Esprit de Dieu ne meurent point. Les chrétiens authentiques quittent la vie pour vivre éternellement auprès de leur Créateur, auprès de leur Sauveur.
Amen.
Tout simplement. Oui, chrétiens, sachez que vous ne mourrez pas. Bien au contraire, vous allez quitter la vie sur cette terre pour aller vivre éternellement auprès de votre Sauveur, si réellement vous avez cru en lui et que vous avez reçu son esprit qui fait de vous son enfant.
Amen.
Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va dire cette déclaration, les Juifs seront tellement troublés. Ils vont même commencer à l'insulter en disant qu'il a même un démon. Et Jésus ne doit pas revenir sur ses propos pour rectifier en disant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le Seigneur va persister, il va signer sur ce qu'il dit. Et Jésus va enfoncer le clou. Lorsque il va dire qu'Abraham a tressaillé de joie lorsqu'il l'a vu. Et les Juifs vont dire, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Comment est-ce que c'est possible? Et alors Jésus va dire, ce que vous ne savez pas, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Abraham a vu Jésus. Et comment cela est-ce possible? Où est-ce que Abraham a vu Jésus réellement? Étant donné que Jésus ne peut pas se tromper, Jésus, il a dit qu'il n'est pas un menteur. Jésus ne dit que la vérité. Si Jésus dit que Abraham l'a vu, alors que Abraham est mort, il y a eu des centaines d'années avant que Jésus ne vienne. Mais où est-ce que Abraham a réellement vu Jésus? En vérité, Abraham a vraiment vu Jésus dans l'Ancien Testament. Et pour votre information, rentrons dans Genèse chapitre 14 et nous allons voir là où Abraham a rencontré Jésus. Nous sommes dans Genèse chapitre 14. Yannick, si tu trouves, tu peux lire cela à partir du verset 17 au verset 20.
Il est écrit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est à la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Créau. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Créau, maître du ciel et de la terre. » Béni soit le Dieu Créau qui a livré ses ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Parole du Seigneur.
Amen. Très chers auditeurs, très chères auditrices, très chers frères et sœurs en Christ, voilà là où Abraham a rencontré Jésus. Melchisédek ici, ce n'est tout simplement l'image du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est l'image. La Bible nous dit que d'ailleurs, Melchisédek, roi de Salem, roi de justice. Et Jésus est le roi de justice.
Amen.
Et la Bible nous dit ici que ce Melchisédek est venu devant Abraham. À cette époque, il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Il va venir au devant de lui avec le pain et le vin. C'est le symbole de la Sainte Seine. Ça veut dire qu'Abraham a même goûté un peu la Sainte Seine avant nous. Souvenons-nous que nous avons lu tout à l'heure que Jésus a pris la coupe et le pain. Et il a partagé avec ses disciples, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Cette coupe représente la nouvelle alliance. Mais Abraham nous a précédés. Il a partagé la Sainte Seine avec Jésus sous la forme de Melchisédek, qui a apparu sous la forme de Melchisédek. Et les Juifs étaient trop limités pour pouvoir imaginer une telle chose. Vous voyez que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et pour confirmer que Melchisédek, c'était tout simplement l'image du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Si nous lisons maintenant dans Hébreux chapitre 7, à partir du premier verset au verset 4, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible va confirmer vraiment tout ce que je suis en train de dire maintenant. Hébreux chapitre 7, à partir du premier verset au verset 4. Yannick, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, « En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. » Sacrificateur du Dieu Très-Haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
Amen. Nous voyons bien que la Bible est suffisamment claire. Que déjà, ce Melchisédek qui était roi de Salem, et la Bible nous dit d'après la signification de son nom, roi de justice. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, justice, paix. Nous savons que Jésus est le prince de la paix. Il est aussi le roi de justice. Donc, c'est Jésus qui a apparu dans l'Ancien Testament, sous cette forme-là, devant Abraham. Et la Bible nous dit d'ailleurs que ce Melchisédek qui avait apparu dans l'Ancien Testament, c'était un personnage vraiment unique. Sa particularité, c'est qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et Jésus-Christ est éternel. Il est éternel. Il vit éternellement. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu, en réalité, n'a pas de commencement ni de fin. Donc, nous voyons que quand Jésus dit aux Juifs qu'avant qu'Abraham fût Jésus, il était en train de dire la vérité. Lorsqu'il disait qu'Abraham l'a vu et il était si content, il disait également la vérité. Donc, très chers auditeurs, très chers auditrices, prenez très au sérieux les déclarations du Seigneur Jésus. Oui, prenez très au sérieux tout ce que Jésus dit. Il est vraiment cette personne qui dit la vérité. Oui, peu importe ce que les gens ont dit, ce que les gens ont écrit sur Jésus. Nous sommes maintenant en train de nous intéresser sur ce que Jésus lui-même a dit sur lui-même. Et il est très bien placé pour dire des choses le concernant. Et nous sommes beaucoup plus encouragés à nous intéresser sur ce que Jésus lui-même a dit sur lui-même que sur ce que les gens ont dit ou ont écrit sur lui. Parce que les gens ont écrit parfois même des choses fausses ou ont dit des choses fausses sur Jésus. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous encourage déjà à tout faire pour avoir ne serait-ce qu'une petite Bible, ne serait-ce que le Nouveau Testament. Même s'il n'y a que les évangiles dedans, ce n'est pas grave. Lisez ces évangiles pour pouvoir être au courant de ce que Jésus a dit et de ce qu'il a fait. C'est très important. Je vous encourage vraiment, faites tout. Même si ce n'est que le Nouveau Testament, c'est déjà très intéressant. Puisque nous sommes même sous la Nouvelle Alliance, c'est même conseillé de lire beaucoup plus le Nouveau Testament.
Amen.
Particulièrement même les évangiles, pour écouter tout ce que Jésus a dit. Et même pour aussi être au courant de ce qu'il a fait. Là, vous aurez vraiment une foi solide, fondée sur ce que Jésus a dit et sur ce qu'il a fait. Si vous n'avez même pas de Nouveau Testament, sentez-vous libre de venir vers nous. Nous allons nous en charger de vous donner un exemplaire gratuitement. Oui, c'est très important. Si vous n'avez pas le Nouveau Testament, venez nous voir. Oui, nous allons vous en procurer au moins un exemplaire et gratuitement. Alléluia.
Amen.
Ah, je veux vraiment, avant de sortir, encore relire dans ce Hébreux chapitre 7, particulièrement à partir du verset 2 qui dit « Abraham lui donna la dîme de tout, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. Le roi de Salem, roi de paix. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement des jours, ni fin de vie. Parce que c'est vraiment merveilleux. Notre Seigneur Jésus est le roi de justice. Il est le prince de paix. Si vous croyez en lui, vous aurez la paix. Vous aurez la paix du cœur. Vous aurez la paix avec Dieu. Et sans plus tarder, nous allons également lire peut-être la dernière portion des Saintes Écritures. Ce jour, avant de nous séparer, compte tenu du temps. Cette fois-ci, nous sommes dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, à partir du verset 39 au verset 41. Yannick, si tu trouves, tu peux lire pour nous tous.
Il est écrit, « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Parole du Seigneur.
Amen. Dans cette portion de l'Écriture, le Seigneur Jésus-Christ va encore faire des déclarations. Il va dire, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. » Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la vue à ceux qui ne voient pas. Si vous reconnaissez que vous ne voyez pas, que vous avez besoin de la lumière du Seigneur dans votre vie, que vous avez besoin d'être éclairé, que vous avez besoin que Dieu ouvre votre intelligence, votre esprit, le Seigneur vous fera grâce, il vous fera voir. Il vous donnera cette opportunité d'être éclairé par sa lumière. Oui, il est venu afin que ceux-là qui sont aveugles puissent voir. Et il a prouvé en donnant même la vue aux aveugles physiques. C'est pour dire que même si vous ne voyez pas physiquement, Dieu peut vous faire grâce en vous donnant la vue. Afin que vous puissiez contempler vraiment ces merveilles, puissiez contempler même la nature autour de vous. Et si vous ne connaissez pas grand-chose concernant Dieu, si vous vous humiliez, vous reconnaissez que vous êtes vraiment aveugle, Jésus dit qu'il va vous faire grâce. Vous allez voir. Vous allez voir sa volonté pour votre vie. Vous allez voir sa grâce, sa puissance infinie se déployer dans votre vie. Si et seulement si vous êtes humble de reconnaître cela. Et le Christ va maintenant dire pour ceux-là qui sont orgueilleux, parce qu'il y a des gens qui sont humbles, qui reconnaissent vraiment qu'ils sont des pécheurs, des pécheresses, des aveugles qui ont besoin de la grâce de Dieu, de la lumière de Dieu dans leur vie. Et de l'autre côté, il y a les gens qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Foutez-moi le camp avec vos histoires de Jésus. Oui, beaucoup sont orgueilleux. Ils disent qu'ils le voient. Ils n'ont pas besoin d'être éclairés. Ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Mais faites gaffe. Attention, attention. Vous qui êtes dans cette attitude-là. Le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il est venu afin que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va dire cela, naturellement, les pharisiens, qui étaient ses ennemis jurés, vont réagir. Ils vont dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, si vous dites que vous voyez, que vous n'avez pas besoin de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, le Seigneur Jésus-Christ dit que, en réalité, vous êtes aveugle, même si vous ne le savez pas, votre péché subsiste. Parce que pour que vos péchés soient effacés, il faut que vous puissiez entrer en vous-même et reconnaître que vous avez besoin de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu dans votre vie. Pour que vous puissiez être délivré, il faut que vraiment vous reconnaissiez que vous avez besoin de la délivrance. Mais si vous dites que vous voyez, vous n'avez besoin de rien, le Seigneur Jésus dit, votre péché va subsister. Vous allez mourir et affronter le jugement de Dieu. Alors que sa grâce est là, sa lumière est là. Pour vous éclairer, pour vous illuminer, sa grâce est là pour vous pardonner et pour vous donner la délivrance et la vie éternelle gratuitement. Et d'ailleurs, pour soutenir cela, le Seigneur Jésus-Christ va dire presque les mêmes paroles dans Apocalypse chapitre 8, relevé Apocalypse chapitre 3, les versets 17 et 18. Écoutez attentivement ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Les versets 17 et 18. Yannick, tu peux lire cela pour nous tous.
Il est écrit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parole du Seigneur.
Amen. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ en train de faire des reproches à certaines personnes. Et il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Oui, il y a beaucoup qui disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de votre Jésus, de vos histoires de Jésus, foutez-moi le camp. Jésus dit, même si tu ne sais pas, attention, tu es malheureux et misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que ce n'est pas parce qu'on est riche matériellement ou financièrement que ça veut dire forcément qu'aux yeux de Dieu, on est riche. On peut être riche financièrement et matériellement, mais être très pauvre spirituellement. Parce que la véritable richesse, c'est d'abord la richesse spirituelle. Oui, Dieu ne nous juge pas par rapport à nos biens matériels et financiers. Le Christ a été suffisamment clair à ce sujet. Il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Parce que Dieu veut que nous soyons d'abord riches en Dieu, riches en lui. Oui, riches spirituellement, c'est la première richesse et la plus grande des richesses. Les autres richesses peuvent suivre, ce n'est pas un péché. Et Jésus-Christ va continuer en disant, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Oui, les vêtements blancs ici représentent la justice de Dieu, la sanctification que Dieu offre. Lorsque quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur et se repent, le Seigneur pardonne cette personne, la purifie, la sanctifie. Et cette personne est désormais comme revêtue d'un vêtement blanc. Parce que Dieu ne voit plus cette personne dans ses péchés, dans ses iniquités. Parce que cette personne a été lavée par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Cette personne a été justifiée. Et cette personne a également l'Esprit de Dieu qui la sanctifie. Et tu es maintenant comme revêtu de blanc aux yeux du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ va également dire, il faut acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voyes. Donc, ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ ouvre véritablement les yeux de quelqu'un qu'on commence vraiment à voir. Donc, si vous n'avez pas encore cru vraiment au Seigneur Jésus, quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, le Seigneur dit que vous avez besoin de lui. Il faut venir à lui. Il faut que lui-même il se charge d'ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir comme cela se doit. Afin que vous puissiez voir la bonté de Dieu, sa fidélité, sa grâce, oui, son amour infini envers vous. Qui veut que vous puissiez vraiment venir à lui pour être pardonné, pour être sauvé et pour avoir la vie éternelle gratuitement. C'est ça, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices. Compte tenu du temps, sommes obligés de mettre un terme à cet entretien de ce jour. Rassurez-vous, nous allons continuer à nous intéresser vraiment à cette déclaration de cet homme merveilleux, de cet homme merveilleux. Oui, Seigneur Jésus Christ, nous te rendons vraiment grâce pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est vraiment la lumière qui éclaire notre chemin. Yannick, est-ce que tu as un dernier mot avant que nous nous séparions?
Je vais juste dire que c'est vraiment merveilleux d'être serviteur ou servante de cette personne qui se distingue entre mille en toutes choses. Amen.
Amen. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, si le Seigneur Jésus-Christ est vraiment cette personne qui le dit être, la plus grande chose que vous deviez faire sur cette terre, c'est chercher à le connaître. C'est croire en lui, c'est le suivre, c'est le servir et c'est l'aimer de tout votre cœur. Vraiment, j'ai dit bien. Si le Seigneur Jésus-Christ est vraiment ce qu'il dit être, la seule chose qui compte sur cette terre, c'est chercher à le connaître. La plus grande chose, la plus importante sur cette terre, c'est chercher à le connaître. Chercher à connaître cet homme, le Christ, le Seigneur Jésus. Cherchez à le connaître. Ayez foi en lui, croyez en lui. Suivez-le, servez-le, aimez-le. Parce qu'il est vraiment digne. Si vous cherchez une autre personne qui soit semblable à cette personne, Jésus, même si vous avez l'éternité pour le faire, vous ne trouverez jamais. Il n'y a personne qui puisse se comparer à Jésus. dans ce siècle-ci, dans les siècles passés et même dans les siècles à venir. Prochainement, lorsque nous allons continuer à lire, il va dire qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Beaucoup disent « je crois en Dieu », beaucoup disent « il n'y a qu'un seul Dieu ». C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller à ce Dieu, et c'est Jésus. Amen. Est-ce que c'est Jésus que vous suivez? Si ce n'est pas Jésus, attention. Vous pouvez bien être sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais tant que vous n'avez pas suivi Jésus qui est le chemin, attention, vous êtes sur une pente vraiment dangereuse. Si vous voulez connaître davantage le Seigneur Jésus, si vous voulez grandir dans la foi, sentez-vous libre. Si vous voulez savoir comment suivre le Seigneur, sentez-vous libre. Si vous avez des préoccupations de quelque nature que ce soit, sentez-vous libre de venir nous rencontrer. Nous allons vous aider dans ce sens. Nous n'avons pas d'autre but, d'autre mission sur cette terre que d'aider les gens vraiment à connaître cet homme, Jésus. Nous ne prêchons pas la religion. Nous n'avons pas de religion à présenter aux gens, à défendre. Nous prêchons Jésus. Nous prêchons sa parole. Et nous amenons les gens à cet homme, Jésus, afin qu'il les délivre et qu'il les sauve. Voilà ce que nous faisons. Voilà notre message. Nous n'en avons point d'autre. Donc sentez-vous vraiment libre de nous rencontrer. Si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin des prières, sentez-vous libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la délivrance est possible et gratuitement. Et gratuitement. Avant de nous séparer, je veux bénir le Seigneur. Seigneur, sois béni pour ce moment. Sois béni pour ta parole. Ta parole est la vérité. Oh Dieu, merci pour toute cette multitude qui ont été si nombreuses à l'écoute. Bénis-les abondamment. Beaucoup ont envoyé même des messages. Oh Dieu, demandant des prières. Tu connais chaque personne avec ses problèmes. Seigneur, toi qui es la solution à tous les problèmes. Seigneur, lève-toi et exauce, oh Dieu, le cri de cœur de ces multitudes. Beaucoup ont besoin de la délivrance, beaucoup ont même besoin de l'encouragement. Oui, beaucoup ont besoin, Seigneur, que tu les visites. Seigneur, peu importe les problèmes, que ce soit spirituel, moral, intellectuel, physique, matériel, financier, tu es le Dieu qui pourvoit. Agis et manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun d'une façon spéciale. Oh Dieu, étends ta puissante main et bénis tout un chacun selon son problème. Et que dans les jours à venir, qu'il puisse avoir vraiment des témoignages qui vont abonder à cause de ce que tu auras fait. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le feras même au-delà de nos prières. Merci, merci vraiment. Bénis abondamment Seigneur nos autorités. Bénis abondamment notre ville et notre département. Et surtout, bénis abondamment notre beau et cher pays. Merci parce que tu le feras. Toute la gloire va te revenir à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen.
Amen.
Très chers auditeurs, pour vous servir, il y avait juste à mes côtés notre bien-aimé dans le Seigneur Yannick. Et quant à moi, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Et à bientôt, et que la bonne main du Seigneur reste et demeure sur vous. Amen.
Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais.
Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.